Donc ce matin, on continue la série « Éveil à la grâce ». Et ce qu'on va regarder ensemble ce matin, c'est la grâce et la croissance. Et j'avais quelques questions que j'aimerais te poser pour que tu puisses réfléchir alors qu'on va aborder ce sujet-là ensemble ce matin. Est-ce que ton expérience de la vie chrétienne est influencée par ta rencontre ou tes rencontres avec Jésus, ou bien par tes relations, tes épreuves ou tes attentes? Est-ce que tu trouves ça lourd de suivre Jésus? Tu n'es pas obligé de répondre ce matin, mais je t'amène à réfléchir. Tu as le droit, de répondre oui en passant. C'est pour ça que je pose des questions. Est-ce que tu sens que les attentes envers toi sont lourdes? Ou quand tu regardes le christianisme, tu te dis « Ouf, j'ai beaucoup de choses à faire pour y arriver ». Est-ce que tu luttes avec plus de culpabilité qu'avec la joie d'appartenir à Jésus? Je t'invite à te poser ces questions-là ce matin. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans la série de l'éveil à la grâce? C'est que la grâce libère. Et honnêtement, ce qu'on prie, notre prière et notre espoir, c'est que si ce n'est pas ton expérience, mais eh bien, que tu puisses goûter et croire et vivre que la grâce libère. On veut découvrir ensemble la grâce de Jésus, que la grâce de Jésus nous permet de jouir de la beauté et de la fraîcheur de la vie abondante. La grâce de Jésus nous permet de jouir de la beauté et de la fraîcheur de la vie abondante. Quand on pense à l'Évangile, quand on pense à la parole de Dieu, quand on pense à une relation avec Dieu, quand on pense à la vie chrétienne, je ne suis pas en train de dire que c'est soit que ça va bien ou que c'est soit que ça va mal. Mais je suis en train de dire qu'on veut croire qu'il y a un espoir. On veut croire qu'il y a une légèreté, qu'il y a une liberté d'appartenir à Jésus. Malgré qui nous sommes, malgré d'où on vient, malgré nos difficultés, malgré le fait que parfois on a l'impression que hey, ça prend plus de temps que je voudrais à changer quelque chose dans ma vie. Mais on veut croire certainement que la grâce libère. Et une bonne question qu'on peut se poser quand on regarde notre vie et notre relation avec Dieu, c'est, eh bien, qu'est-ce qui nous change réellement? Qu'est-ce qui m'amène à grandir? La Bible nous parle de la sanctification, de grandir, de ressembler à Jésus de plus en plus, d'être capable d'adorer Dieu et de lui obéir dans toute notre vie. Qu'est-ce qui me change? Qu'est-ce qui m'amène à grandir? Et c'est souvent la réponse qu'on se donne ou qu'on reçoit à cette question qui va déterminer si on voit le christianisme comme quelque chose de lourd ou quelque chose qui libère. Et ce que j'aimerais qu'on voit ce matin ensemble, c'est ce qui motive le changement, c'est l'amour. Ce qui produit l'amour, c'est réaliser l'ampleur de la grâce de Dieu envers nous. Et j'aimerais ça ce matin faire un petit peu différent que j'ai l'habitude de faire, mais on va regarder quelques passages bibliques en rafale pour démontrer à quel point, même à quel point la parole nous parle du fait que l'amour de Dieu nous motive à lui obéir. Et il y a plusieurs autres versets, passages que j'aurais pu choisir ce matin, mais j'en ai choisi quelques-uns que je voulais qu'on regarde ensemble. Tout d'abord, on peut voir dans 2 Corinthiens 5, 14 et 15, c'est que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Qu'est-ce qui nous pousse à vivre pour Dieu? C'est l'amour de Christ qui nous presse. Romains 5, 5. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et quel amour, Romains 5, 8, 9 va nous parler de quel amour il s'agit qui est en nous. Quel témoignage avons-nous de l'amour de Dieu en nous? Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Donc avant même que nous faisons un pas vers Dieu, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Et 1 Jean 4, 19 dit, « Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Donc, qu'est-ce qui nous motive à aimer Dieu et à vouloir lui obéir? C'est toujours l'amour de Dieu envers nous qui doit être la réponse. Quand on réalise l'ampleur de la grâce de Dieu envers nous, à quel point j'avais besoin de lui, à quel point j'étais séparé de lui, mais que je réalise à quel point Dieu m'a aimé, comme on le voit dans Romains 5, 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, ces passages nous montrent que ce qui nous motive à aimer Dieu et à lui obéir, c'est l'amour qu'il a d'abord eu pour nous avant que nous faisions quoi que ce soit. Mais un passage ce matin que j'aimerais qu'on regarde ensemble, un petit peu, qu'on regarde davantage, c'est Tite 2, 11, 14. Donc, il va apparaître à l'écran ce matin, mais si vous voulez tourner dans vos Bibles, je vais y retourner à quelques reprises pendant le discours. Mais Tite 2, 11 à 14 nous dit, « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et vivre dans les temps présents conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » Verset 14, « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour des belles œuvres. » La grâce de Dieu nous enseigne tout au long de notre vie. Peut-être que ton concept de la grâce ou de l'Évangile, c'est que c'est ce que tu avais besoin pour devenir un chrétien. Et en effet, Jésus est mort à la croix pour nous réconcilier avec lui, pour nous sauver de nos péchés, pour qu'on puisse être appelé enfant de Dieu. On est devenu des chrétiens par l'Évangile, par la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu continue de nous enseigner tout au long de notre vie. C'est aussi le moteur de notre croissance. Parce qu'ici, on voit dans Tite 2 que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au péché et à poursuivre la volonté de Dieu. Si on faisait un résumé de ce qui a été dit dans les premiers versets. À renoncer au péché et à poursuivre la volonté de Dieu. La grâce de Dieu nous montre à quel point ce que Dieu a fait pour nous était tellement grand que je veux pouvoir avoir son... Je veux pouvoir vivre comme il me demande de vivre, tellement il m'a aimé. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au péché et à poursuivre la volonté de Dieu. Plus notre amour pour Dieu grandit, plus nous voulons lui obéir. Plus nous apprenons à aimer ce qu'il aime et faire ce qu'il veut. Cette semaine, je suis allé porter mes enfants à l'école. Je pense que c'était sur l'heure du dîner. Et un de mes enfants s'est mis à courir super vite. Puis là, les autres, ils ont dit, « Hey, il a pas le droit de courir. » Puis honnêtement, ça me dérangeait pas tant qu'il court. Mais je le sais qu'il a pas le droit de courir. Parce que souvent, c'est maman qui va les porter, puis là, ils partent d'un bord puis de l'autre. Puis fait que la règle, c'est qu'il a pas le droit de courir. Mais là, j'ai rien dit. Puis là, il a comme s'il s'est mis à courir, il était sur la bordure du trottoir, et puis il s'est... Je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai vu à terre, en tout cas. Il s'est enfargé, là, puis il a fait deux, trois... Il s'est fait mal, puis là, je regarde. Là, je dis, OK, ma tendance naturelle, OK, parce qu'avant de me vanter, je vais vous dire qui je suis d'habitude. Ma tendance naturelle, c'est de dire, « Hey, tu n'avais pas le droit de courir, qu'est-ce que tu fais là? Reviens ici! » Avant même de savoir s'il est correct. Ça m'arrive. Désolé. Mais là, j'ai rien dit ce coup-là. Puis il s'est levé, j'ai regardé, j'ai dit, « Hey, es-tu correct? C'est-tu fait mal? » Puis là, il a couru vers moi, avec sa main comme ça, puis là, j'ai dit, « Hey, il s'est peut-être cassé le bras, tu sais, je sais pas comment il est tombé. » Puis là, il pleurait, là, tu sais. Puis là, je le regarde. Puis je le regarde, je dis, t'es-tu correct? Puis je pense qu'il s'attendait que je le grogne un peu. Parce qu'il m'a comme regardé. Il a dit oui. Puis là, on est retourné à l'école. On marchait, il me tenait la main, il courait plus. Et puis, là, on arrive à l'école. À l'école, je le prends dans mes bras, je lui donne un câlin. J'étais tu correct? Il dit oui, ça va. Puis là, on a bougé les bras, on a fait, tout était bon. C'était juste une petite graphine sur la main. Il est allé à l'école. Et j'ai vraiment eu cette réflexion-là en revenant à la maison que, hey, j'aurais pu le gronder, j'aurais pu faire plein de choses. Mais il a vécu la conséquence de son acte. Puis je pense qu'il était vraiment surpris que je le chicane pas. Puis après, il avait juste le goût d'être à côté de moi puis d'écouter. Sans que je le chicane. J'étais comme, il a goûté à la grâce. Il a eu une conséquence pour d'avoir désobéi, mais certainement que ce qui a fait qu'il est resté proche de moi après, puis qu'il a accepté mes soins, puis qu'il était vraiment content d'être avec moi, c'est le fait que je l'ai accueilli, puis j'ai pris soin de lui. J'ai pas eu besoin de dire après, cours pas, fais pas ça, t'as pas le droit. Je pense qu'on a vraiment eu, toutes les deux, moi j'étais enseigné à ce moment-là, que la grâce enseigne à faire le bien. Parce que parfois, on pense que c'est pas assez vite ou que c'est trop facile, puis qu'on pense que s'il y a trop de grâce, ben on va juste faire ce qu'on veut parce que finalement, on a besoin de se faire chicaner et tout ça. Souvent, c'est comme ça que moi, je perçois ma vie, puis que ma propre vie, comment je me vois moi-même, puis que je gère mes relations. C'est bien mieux de motiver le changement par la peur. Tu sais, faisons peur à nos enfants, établissons nos règles, soyons intransigeants, puis là, ben ça va marcher comme on veut. Mais combien de fois on a ces beaux moments-là, comme j'ai vécu cette semaine, que je n'avais pas planifié, où on voit que non, la grâce fait vraiment une différence et motive un changement. Peut-être que la peur va motiver de faire un comportement, un bon comportement pour un temps. Mais ce que l'amour fait, c'est qu'on a le goût d'être avec la personne qui nous fait cette grâce-là, puis on a le goût d'obéir. C'est ce qui va nous garder. La parole de Dieu ne nous enseigne pas à motiver le changement par la peur. Ou, par exemple, hein, si je ne fais pas ça, là tu peux terminer, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu sais, le pire peut-être qu'on a peut-être déjà entendu ou peut-être dit, hey, si tu ne fais pas ça, tu vas aller en enfer. Honnêtement, quand j'étais jeune, j'avais en 2003, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je me souviens que ce qui m'est arrivé à ce moment-là, ça c'était entre moi et Dieu, j'étais tout seul dans ma chambre, puis j'ai eu peur. J'ai eu peur de mourir. J'ai dit, aïe, j'ai peur de mourir, j'ai peur de passer l'éternité sans Dieu. Et vraiment, j'ai eu une peur de l'enfer à ce moment-là. Donc, la Bible parle énormément des conséquences du péché. La Bible parle de qu'est-ce qui va arriver si on met pas notre confiance en Jésus, qu'on va passer toute l'éternité sans Dieu à souffrir énormément. Jésus en parle énormément. Je suis pas en train de dire que c'est pas quelque chose qu'il faut aborder ou qu'il faut parler. Je m'en souviens à ce moment-là, en 2003, j'étais dans ma chambre et j'ai eu peur de mourir parce que j'ai eu peur de souffrir pour l'éternité. Mais ce qui m'a motivé à rester et à vraiment me tourner vers Dieu, c'est quand j'ai réalisé à quel point Dieu m'aimait. Et à ce moment-là, c'était plus une crainte de quelque chose de l'enfer qui me motivait, mais c'était vraiment le désir de suivre Jésus. Et souvent, dans nos paroles, il faut faire attention aux avertissements qu'on donne si elles sont dénudées d'espoir et de la possibilité que Dieu va intervenir dans nos vies. Par exemple, tous les enseignements dans la Bible est remplie d'enseignements qui disent qu'on doit faire des choses. Il y a des commandements, fais ceci, fais cela. Mais l'enseignement sans la grâce, c'est destructeur. Peut-être que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais en pensant qu'on va encourager les gens à faire le bien, on est en train d'imposer nos opinions aux autres. Et c'est vraiment important de savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Mais encore là, l'enseignement sans la grâce, c'est destructeur. Ça met un fardeau sur les autres. Tout enseignement biblique, toute directive, exhortation, sans l'espoir de la grâce de Dieu, nous demande de payer le prix pour nos péchés. Quand on exhorte quelqu'un à faire le bien, à faire quelque chose sans la grâce de Dieu, sans l'espoir que Dieu peut le transformer, c'est comme si on disait à cette personne-là, tu dois payer le prix pour ton péché. C'est un appel à porter le fardeau pour nos manquements, alors que la grâce de Dieu nous enseigne que Jésus a porté tout ça pour nous. Et si nous pouvons renoncer au mal, c'est parce qu'il a payé les conséquences de nos péchés à notre place. Donc, on ne peut pas motiver le changement par la peur parce que ça ne fonctionne pas. Parce que c'est l'amour de Dieu envers nous qui motive le changement. Mais encore une fois, ce matin, on peut être là, puis tu peux entendre tout ça, puis dire « Oui, j'aime Dieu, j'aime Jésus, je veux lui obéir, mais je lutte encore avec le péché dans ma vie. Je lutte encore avec plein de choses dans ma vie, avec la honte, la culpabilité. Comment changer? Pourtant, je l'aime. » Justement, quand je suis devenu un enfant de Dieu, je me souviens, je suis sorti de chez moi pour venir à l'église le dimanche avec ma Bible. J'avais mon cartable de notes pour écrire des notes. Puis là, je suis parti sur, je sais pas si c'était un mois ou deux, là, où est-ce que je manquais plus une rencontre à l'église. J'étais là matin, soir, en semaine, les rencontres de jeunesse. J'avais mon cartable, je prenais des notes. J'arrivais de l'école, je lisais ma Bible, je priais. Puis j'étais vraiment motivé. Puis je me souviens à un moment donné, pendant cette période de temps-là, d'avoir dit, « Aïe, aïe, toutes mes luttes sont parties. J'ai plus de péché. Ça va bien dans ma vie. J'ai plus de problème. Aïe, aïe, Dieu. » Puis là, je capotais, puis j'aimais ça. Puis... Mais, et honnêtement, je suis pas en train de condamner ce zèle parce que l'amour de la parole de Dieu, l'amour de connecter avec Dieu, c'est ce qu'on veut poursuivre dans nos vies. Mais à un moment donné, j'avais cette attente qui s'est installée que c'était ça qui allait être ma vie pour tout le restant de ma vie, puis que j'allais pas avoir mes luttes, puis que mes luttes du passé, c'était tout réglé, puis j'avais plus de problèmes. Jusqu'au jour où j'ai recommencé à avoir des luttes, ou que j'ai recommencé à pas aimer ça lire, puis que j'ai recommencé à avoir de la difficulté à connecter avec Dieu. Puis que là, je me sentais coupable. Puis plutôt que d'aller voir Dieu puis dire, Dieu, j'ai de la difficulté, j'étais comme, hey, peut-être que j'ai pas compris. Peut-être que j'ai pas vraiment donné ma vie au Seigneur à ce moment-là. Peut-être que je basais ma vie spirituelle sur ma performance sans m'en rendre compte. Et là, à un moment donné, j'étais pas reconnaissant. Je recherchais pas à être reconnaissant de ce que Dieu avait fait pour moi. Plutôt, j'essayais de montrer à Dieu ce que j'étais capable de faire pour lui. Mais l'œuvre de Dieu en nous, Dieu agit encore dans nos vies aujourd'hui. Et quand on regarde le salut, c'est-à-dire Jésus qui est venu nous sauver de la culpabilité de nos péchés, qui a fait de nous ses enfants, qu'on est devenus des enfants de Dieu, des chrétiens, on regarde que l'œuvre de Dieu en nous, dans la parole de Dieu, parfois peut-être que nos attentes ou nos attentes exactement sont peut-être pas mises à la bonne place. Et quand on regarde ce que Dieu a fait dans nos vies, on peut voir que c'est comme si le salut de Dieu s'opérait en trois temps. Tout d'abord, dans le passé, on peut voir qu'à la croix, on a été sauvé de la condamnation du péché pour faire partie de la famille de Dieu. À la croix, Jésus nous a totalement pardonné tous nos péchés, passés, présents et futurs. À la croix, Jésus a fait de nous, si on met notre confiance en Jésus qui est mort et qui est ressuscité pour nous, Jésus fait de nous ses enfants. Et encore mieux que ça, ce que la Bible nous dit, c'est que maintenant, quand Dieu nous regarde, il ne voit même plus nos œuvres à nous, il voit son Fils Jésus à travers nous. Jésus est mort pour qu'on puisse avoir la faveur de Dieu. Et ça, il n'y a rien qui peut nous enlever cette identité-là d'être enfant de Dieu dans la famille de Dieu, d'être pardonné. Par contre, parfois, on oublie cette réalité-là, on oublie cette vérité-là et on met notre identité dans toutes sortes de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas ou qu'on nous a fait. Mais une autre chose qu'on fait aussi parfois entre nous, et moi personnellement dans ma vie ou chacun d'entre nous ensemble, c'est qu'on vit comme si cette réalité-là de Jésus qui nous a pardonné de tous nos péchés était déjà tout accomplie et que finalement, on devrait s'attendre les uns des autres qu'il n'y ait pas de péché parmi nous. On vit comme si c'était déjà accompli. Mais ça, frères et sœurs, c'est ce que Dieu va accomplir dans le futur. Nous allons être sauvés de la présence du péché pour vivre avec lui pour toujours. Mais ce qu'on a besoin d'apprendre à vivre aujourd'hui, c'est que bien que c'est déjà accompli, que nous avons déjà cette identité d'enfant de Dieu, que nous sommes déjà pardonnés, eh bien, nous ne sommes pas totalement, nous ne sommes pas encore totalement séparés de la puissance du péché dans nos vies. Et aujourd'hui, dans le présent, je lui dis passé, futur, c'était voulu, dans le présent, Dieu nous sauve de la puissance du péché aujourd'hui pour lui rendre gloire en toutes choses par la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous sauve de la puissance du péché aujourd'hui pour lui rendre gloire en toutes choses, c'est-à-dire lui l'obéir, l'adorer par la puissance du Saint-Esprit. Dieu est en train d'opérer le changement en nous aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4, ça dit, « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous avez été sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. C'est aussi par lui, au verset 2, je relis le verset 2, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. » Ce verset-là, c'est encore plus clair en anglais, dans les versets anglophones, ça dit « You are being saved ». C'est vraiment un temps présent. Nous sommes en train d'être sauvés par cet évangile aujourd'hui. Dieu est encore en train de nous transformer. Oui, il y a cette promesse qu'on est déjà enfant de Dieu, on est déjà complètement pardonné. Cette vérité que Dieu ne nous voit plus, nous, il voit Christ quand il nous regarde. Alors, on est pardonné à cause de ce que Christ a fait pour nous. On est aimé de Dieu à cause de ce que Christ a fait pour nous. On peut être dans la présence de Dieu pour l'éternité. On a cette certitude-là, frères et sœurs. Mais Dieu est encore en train de nous libérer de la puissance du péché. La grâce nous enseigne que nous sommes en train de progresser et que c'est l'amour de Jésus qui nous pousse à vouloir changer. Alors, on a besoin de connaître ce que Dieu est en train de faire, comme on vient de le voir ici. On a besoin de nous connaître et de réaliser que oui, nous sommes tous sujets à la tentation. Le péché est en nous, la jalousie, l'orgueil, la convoitise, la colère. Et bien plus encore. Mais une bonne question à se poser, c'est si la grâce nous garantit le statut de Christ, c'est-à-dire enfant de Dieu dans la famille de Dieu à cause de ce que Dieu a fait pour nous, et que la grâce nous garantit sa puissance. Vous savez, quand on devient enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous et c'est par la puissance de l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts qu'on peut vivre la vie que Dieu nous demande de donner. Dieu nous donne une motivation, son amour et une puissance, son Esprit, pour pouvoir vivre avec lui cette grâce qui libère. Alors, pourquoi continuons-nous à pécher? Ce qu'on voit depuis tantôt, c'est qu'on est motivé parce que nous aimons. Et la réalité, frères et sœurs, c'est qu'on aime le péché. Et c'est de cette puissance-là que Dieu est en train de nous libérer. On est des êtres qui sont motivés par ce que nous aimons. Et la seule façon de changer quelque chose que nous aimons, c'est de le changer par quelque chose que nous aimons plus. Et c'est ce que Dieu fait. Il est en train de nous transformer. Il nous fait réaliser toute la puissance et tout l'amour qu'il a eu envers nous. Et c'est l'amour de Dieu envers nous qui peut nous motiver. Et quand on réalise qu'il n'y a rien de plus grand, rien de plus important, rien que j'aime plus que Dieu, que les choses qui sont importantes pour moi aujourd'hui, que Dieu n'aime pas, peuvent perdre de leur saveur. On est contrôlé parce qu'on aime le plus. La grâce de Dieu n'enlève pas totalement l'attrait du péché ici-bas. Mais notre amour pour le péché est brisé par un amour plus grand généré par la grâce. Et c'est ce que on a lu plutôt dans Tite 2:11. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer au péché et à suivre Dieu, suivre la volonté de Dieu. La grâce ne nous dit pas seulement pourquoi on doit suivre Jésus, c'est-à-dire l'amour qu'il a eu pour nous, mais elle nous donne aussi la puissance. Et je crois que ça, c'est vraiment une des bonnes nouvelles, une des bénédictions d'être enfant de Dieu, c'est que Dieu habite en nous, frères et sœurs. Il y a la puissance de Dieu qui habite en nous. Nous ne sommes pas seuls. Quand que je lisais Tite 2, puis à la fin de Tite 2, au verset 14, on voit que Jésus, en fait, le verset 14, il s'est donné lui-même pour nous afin que de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour faire des belles œuvres. Je me dis, cette phrase-là, sans la grâce de Dieu et sans la puissance de Dieu, purifié et zélé pour des belles œuvres, ça peut être vraiment source d'anxiété. De honte, de culpabilité. Mais hey, Dieu nous a dit que c'est Jésus qui a tout fait et qui nous a donné son esprit. C'est lui qui s'est fait un peuple. Et c'est lui qui nous donne ce qu'on a besoin pour lui obéir et l'adorer. Dieu nous apprend à aimer ce qu'il aime. Et il nous donne sa puissance pour qu'on puisse grandir. Parce que si le changement est motivé par l'amour que produit sa grâce, mais la puissance qui vient, qui nous permet de changer, vient du Saint-Esprit qui habite en nous. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc nous sommes motivés par l'amour et poussés par l'Esprit. Voici ce qui produit le changement. Nous sommes motivés par l'amour, poussés par l'Esprit pour vaincre ce qu'on aime par quelque chose que nous aimons plus. Quand on parle de changement, on peut entendre aussi l'importance de la prière, de venir à l'église, de lire la Bible. Et toutes ces choses-là, et je vous avoue qu'il y a eu un temps dans ma vie où est-ce que je luttais avec ça. J'avais l'impression que ça, c'était des devoirs que j'avais besoin de faire pour plaire à Dieu, puis je n'étais pas capable de le vivre autrement. Mais les disciplines spirituelles dans nos vies, lire la Bible, prier, partager l'Évangile entre frères et sœurs, étudier la Bible, faire des cours bibliques, venir à l'église, chanter ensemble, écouter un message, un discours, toutes ces choses-là. Le problème, ce n'est pas ces choses-là en soi, mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Et les disciplines spirituelles, ce n'est pas une monnaie d'échange pour avoir l'approbation de Dieu, mais un moyen de connaître Dieu, de l'aimer de plus en plus et de lui faire confiance. C'est un moyen pour apprendre à connaître Dieu et pour adorer Dieu de plus en plus. Et ça change vraiment notre façon d'approcher. Si je découvre l'amour de Dieu, je veux apprendre à connaître Dieu. Peut-être que c'est parfois en lisant la parole, je suis sûr que ça nous est tous arrivé, ceux que ça fait peut-être plusieurs années que vous lisez la Bible, que parfois tu vas lire la Bible, il y a des fois tu vas trouver ça plutôt difficile et peut-être plutôt long, mais il y a d'autres fois tu vas lire des passages et tu vas vraiment dire « Waouh Seigneur, t'es vraiment bon, t'es vraiment beau, t'es vraiment grand, t'es vraiment puissant. » Mais c'est vraiment au travers de sa parole que Dieu nous a donné qu'on peut apprendre à le connaître et grandir dans notre amour pour lui. Donc, posons-nous cette question ce matin quand on adresse quelqu'un, qu'on veut adresser peut-être un péché dans la vie de quelqu'un, qu'on veut exhorter quelqu'un, qu'on veut reprendre quelqu'un. Est-ce que mon exhortation a suscité l'espoir ou est-ce qu'elle a ajouté un fardeau? Et comme on a vu au début, est-ce que je suis en train de lui donner l'espoir que Jésus nous donne? Est-ce que je suis en train de lui partager la puissance de l'Évangile, la profondeur de l'amour de Jésus? Est-ce que mon exhortation a suscité l'espoir? Est-ce que quand je me parle à moi-même, est-ce que je suis en train de me ramener à Jésus et à ce qu'il a fait pour moi? Ou est-ce que je suis en train de me culpabiliser davantage à essayer d'impressionner Dieu? Un Dieu qui finalement, quand il me regarde faire des choses, il voit l'œuvre de Christ à la place de mes œuvres. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer, à venir me joindre sur la scène. Donc, comment changer? En me rappelant que j'ai besoin de Dieu qui m'a aimé d'un amour qui l'a mené à la croix. Il est mort pour moi, il est ressuscité. Et Dieu m'appelle à aimer mon prochain comme j'ai été aimé. Et quelqu'un m'a dit quelque chose un jour qui m'a grandement encouragé puis qui m'aide beaucoup à retourner à Dieu dans les moments où soit j'ai des attentes envers les autres ou j'ai des attentes envers moi qui sont peut-être irraisonnables. Peut-être que tu as été blessé dans ta vie. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas chez quelqu'un d'autre. Peut-être que parfois tu penses que les autres ont besoin de changer quelque chose et ça t'énerve de les voir agir de la manière qu'ils agissent. Peut-être que parfois c'est dans ta propre vie, tu te dis, hey, je suis pas assez bon, je suis pas assez bonne, je n'ai pas fait assez cette semaine. Je suis encore en train de lutter. Parfois c'est comme ça qu'on agit envers nous, parfois on agit comme ça envers les autres. On veut leur imposer nos préférences, on veut être... Puis on le fait peut-être avec une bonne attitude de que ces gens-là puissent connaître Dieu puis obéir. Mais pour éviter la tendance de nous élever au-dessus de ces personnes-là dans les moments où eux ont peut-être besoin de nous et penser que je suis meilleur qu'eux, je dois me rappeler d'une chose qui est bien importante. C'est qu'il y a au moins une histoire dans ma vie, il y a au moins une fois dans ma vie où j'ai été le coupable et j'ai eu besoin de pardon. Et je pense... Il y en a plus qu'une fois, mais il y a au moins une fois. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Dans l'histoire que nous vivons avec Dieu, nous avons été le coupable et nous avons eu besoin d'un héros qui n'a pas hésité à donner sa vie pour qu'on puisse être pardonné. Et quand je regarde les autres, quand on regarde les autres, rappelons-nous que si dans cette histoire-là, c'est eux le coupable... Et moi, j'ai déjà été le coupable. Et j'ai bien aimé ça qu'il y avait quelqu'un qui était là pour me pardonner. J'ai bien aimé ça qu'il y avait quelqu'un qui était là pour me dire « Tout est accompli, tu n'as plus besoin de chercher mon approbation, je te la donne. Je te pardonne de tes péchés, je te donne la liberté et tu peux même maintenant vivre une vie qui m'honore. » Ayons cette grâce les uns envers les autres. Et on a besoin de se rappeler ces choses-là parce qu'il va y avoir des moments cette semaine où tu vas te chicaner avec ton conjoint, ta conjointe, tu vas peut-être mal réagir avec tes enfants et tu vas avoir besoin de te rappeler, OK, là j'agis comme si je suis bien meilleur qu'eux dans tous les moments. Mais dans une histoire, j'étais le coupable et j'ai bien aimé ça que quelqu'un me pardonne. Alors, peut-être que c'est le temps que j'aille demander pardon et que j'écoute la personne et que je lui partage l'espoir qui est en Jésus. Alors, Église des Sentiers, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse réaliser à quel point on est aimé de Dieu et qu'on puisse persévérer ensemble à grandir dans cet amour pour qu'on puisse être une église qui obéit et qui adore Dieu, motivée par l'amour que la grâce a suscité. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci parce que c'est tout toi qui as accompli pour nous. Peut-être que c'est dur, cette vérité-là, d'entendre ce matin, de dire, « Ah, quoi, j'ai pas besoin de rien prouver, je peux pas montrer mes capacités. » Mais ce qui est beau, Seigneur, c'est que toi, tu as tout fait ça pour nous. Et maintenant, on peut utiliser ce que tu nous as donné pour bénir les autres et être une bénédiction pour les gens autour de nous. Alors, remplis-nous d'amour, remplis-nous d'espoir et que cette église puisse être un phare de ton amour dans cette communauté, dans notre ville, les uns envers les autres, dans nos groupes, le sentier, dans les différents ministères. Soyons remplis de grâce, comme tu as été rempli de grâce envers nous. Et croyons que c'est le seul moteur du changement dans nos vies. Merci, merci d'être avec nous, Jésus. Amen.